VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Mandelakiza, encore avec vous pour développer les points de votre actualité. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont appelé dimanche au sommet du G7 à Biarritz à élargir à d'autres pays et à renforcer financièrement la coalition internationale et dans les pays du Sahel à lutter contre les groupes djihadistes. Ils ont annoncé la création d'un nouveau partenariat dont les modalités seront fixées lors d'une conférence franco-allemande d'ici la fin de l'année, a précisé la chancelière Merkel. L'Allemagne se sent très engagée, a-t-elle précisé, présent à leur côté. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, qui préside actuellement le G5 Sahel, qui comprend le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad et le Burkina Faso, une force militaire multinationale pour lutter contre les groupes, des multiples groupes djihadistes, a insisté sur la nécessité d'un appui massif en termes de développement. Au moins 12 personnes ont été tuées dans le comté de Marsabit, dans le nord du Kenya, dans deux attaques menées samedi et dimanche par des voleurs de bétail soupçonnés d'être des Éthiopiens d'ethnie Borana. La police kenyane a dépêché des unités pour poursuivre les criminels et occuper le terrain pour empêcher de nouvelles attaques et tueries. Un des voleurs qui ont amené avec eux environ un millier de chèvres a été tué dans cette seconde attaque, a précisé la police. Les vols de bétail ou les querelles portant sur des sources d'eau ou des pâturages sont traditionnellement fréquents dans les zones pastorales du nord du Kenya. L'Afrique du Sud a saisi un Airbus de la compagnie nationale Air Tanzania pour des impayés de 33 millions de dollars réclamés par un fermier dont les terres ont été nationalisées dans les années 80. Le vol d'Air Tanzania qui reliait Dar es Salaam à Johannesburg a été saisi vendredi à l'aéroport Or Tambo International dès son atterrissage. Le ministère tanzanien des Transports a confirmé la saisie de l'avion et souligné dans un communiqué œuvrer en vue de la levée de cette saisie pour qu'il puisse reprendre ses vols. Paul Pogba s'est dit prêt dimanche à se battre contre le racisme au lendemain de nouvelles injures racistes sur les réseaux sociaux contre son coéquipier de Manchester United, Marcus Rashford. Mes ancêtres et mes parents ont souffert pour que ma génération soit libre aujourd'hui pour travailler, pour prendre le bus, pour jouer au football. Les insultes racistes sont de l'ignorance et ne peuvent que me rendre plus fort et me motiver à m'en battre pour la prochaine génération, a tweeté le champion du monde, victime lui aussi des insultes en début de semaine. Les deux joueurs de Manchester United, Paul Pogba et Marcus Rashford, ont été victimes d'injures racistes sur les réseaux sociaux après avoir manqué chacun un penalty dans deux matchs différents. Ici aux États-Unis, la course bondée à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020 ne serait pas jeune candidat qui reste dans l'ombre des éléphants des primaires. Déjà 4 ans jeté l'éponge et le couperet pourrait tomber pour d'autres dès cette semaine. Un deuxième républicain défie Trump pour la présidentielle de 2020. C'est un enfant, c'est ainsi que le républicain Joe Walsh a justifié sa candidature à des primaires contre le président sortant pour l'élection présidentielle de novembre 2020. Son deuxième rival à ce stade, nous ne pouvons supporter 4 ans de plus de Donald Trump. C'est pourquoi je suis candidat à la présidentielle, a déclaré Joe Walsh, animateur de radio conservateur et ancien élu du Tea Party au Congrès sur Twitter. Environ 200 000 membres de l'ethnie musulmane des Rohingyas ont manifesté dimanche dans un camp de réfugiés au Bangladesh pour commémorer le deuxième anniversaire de leur exil de Birmanie qu'ils qualifient du jour de génocide. Et à Hong Kong, les manifestants hyperconnectés redoublent de créativité pour maintenir en vie un mouvement pro-démocratie lancé depuis près de 3 mois. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Le prochain dans 55 minutes. A tout de suite.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bienvenue, madame, messieurs, sur VOA Afrique, dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous ce soir. La religion, facteur de violence et de paix en Afrique. C'est notre thème. Les institutions religieuses possèdent aussi bien un potentiel de paix que de guerre. Elles peuvent jouer le rôle de pacificateur et peuvent aussi être utilisées pour justifier la guerre. Plusieurs pays africains sont actuellement victimes de violences à caractère religieux extrêmes perpétrées par différentes organisations telles que la Lord Resistance Army en Ouganda, les Seleka et Antibalaka en République centrafricaine, El Shabab en Somalie et au Kenya, Boko Haram au Nigeria, au Niger et au Tchad, dans tout le Sahel, en Sardine au Mali, des extrémistes musulmans en Égypte, Al-Qaïda au Maghreb, Islamique, ACMI et des groupes africains prêchant allégeance à l'État islamique, etc. Dans la plupart des cas, la manipulation de la religion, il faut l'appeler comme telle, est utilisée pour inciter au radicalisme et pour justifier l'exclusion, la violence et la guerre. Les auteurs de ces violences estiment qu'ils agissent conformément à leurs valeurs morales et religieuses. D'autre part, les chefs religieux de différentes confessions essaient de jouer le rôle de pacificateurs en menant des initiatives de paix dans les régions touchées. Question qu'on vous a posée sur votre page Facebook. Proposer des actions concrètes pour prévenir et contenir l'extrémisme religieux en Afrique. Et sous la direction de Margie Ensign, présidente du Dixon College ici aux États-Unis, et de Jean-Pierre Karegeye, qui est professeur de philosophie au Dickinson College, ont dirigé une étude à ce sujet. Jean-Pierre est avec nous en ligne. Jean-Pierre, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom de Madame Maggi. Voilà, vous avez mené cette étude dans différents pays. Est-ce que la motivation, le fondement même de ces mouvements, est-ce que la motivation est la même dans tous ces pays ou chaque pays a un contexte particulier qui a abouti à ce qu'on voit, à ce qu'on vit?
Oui, je crois que chaque cas ou situation d'extrémisme religieux, chaque cas a certainement des raisons multiples et ça, ce sont des mouvements qui évoluent dans des environnements différents, bien sûr, mais il y a toujours quelques éléments communs qu'on retrouve dans tous ces mouvements et
lesquels
utilisent la religion contre, disons, qui utilisent la religion pour d'autres raisons, certainement. Bon, les raisons, je dirais, les raisons communes, si vous voulez, ou plutôt les motivations communes, c'est d'abord les démarches religieuses, n'est-ce pas, et qui peut servir de des substrats moraux, n'est-ce pas, et c'est-à-dire l'acte que vous commettez au nom de la religion est dans une certaine mesure justifié. Donc il y a ça, mais aussi les causes peuvent être aussi en grande partie communes aussi. Donc on a remarqué par exemple dans les régions et sous-développées et dans des régions où vous avez des gens qui ont moins d'éducation, mais où il y a aussi d'autres conflits latents et cela aussi rend la communauté vulnérable à ces mouvements. Mais je ne dis pas que quand il y a éducation, je ne dis pas quand quand il y a richesse, qu'on ne peut pas être exposé à ces mouvements, loin de là. Mais ça rend la population ou la région vulnérable.
Alphonse Mbouaki, il dit la religion en réalité est un facteur de paix, d'amour, de cohabitation communautaire, mais elle subit le détour des gens méchants pour accomplir leurs ambitions saliques. Dieu a la bonté d'en
toute son essence. Le mal vient de Satan, contredisant la volonté naturelle du Créateur. Donc toute religion prenant domaine a subi l'influence méchante de son maître, à savoir le diable. Est-ce que c'est la religion qui prône le mal, ou sont des individus au nom de la religion? On va y revenir tout de suite. Conan Félix, Conan est en Côte d'Ivoire, vous êtes en ligne, bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur.
Voilà, c'est une triste réalité. Oui, c'est une triste réalité en Afrique. La Côte d'Ivoire a déjà subi de telles conséquences. Je vous écoute.
Oui, oui, effectivement, l'instrumentalisation de la religion pour aboutir à des fins politiques est une réalité ici en Afrique. Nous l'assistons à beaucoup de contrées, dans beaucoup de régions, à ce mal, je dirais. Donc, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, la rébellion que nous avons connue depuis 2002 jusqu'en 2011 a été à l'origine de l'instrumentalisation politique. Parce que ça a l'origine en place. Alors, en l'occurrence, M. Alassane Dramane Ouattara, il ne faut pas de le dire. En Côte d'Ivoire, on ne veut pas qu'il soit président parce qu'il est musulman. On ne veut pas qu'il soit président parce que non, il est du Nord. Donc, ça, c'était son invitation à ce que les musulmans se joignent à sa cause. Donc, il voulait faire un front commun. Donc, là, il a fallu qu'il marche sur le fil de la religion afin que les gens classiques croient en lui, puissent s'appliquer en lui. Ça a été un mal.
Maintenant, pour vous, quelles sont les voies de sortie? Proposez des solutions.
Oui, oui, justement. Donc, moi, je propose que l'État puisse avoir un regard, un droit de contrôle sur les prédications de ces religieux-là. Il faut que l'État essaie de imprégner les enseignements que les gens donnent dans ces mortiers, dans ces églises, afin de contrôler. Il ne faudrait pas que ces textes religieux-là, tout le pouvoir de la religion, puisse endoctriner les gens, puisse emporter la masse. Donc l'État doit vérifier ce que les gens prédisent, enseignent dans leur édifice religieux, je le dis.
Merci Conan pour votre contribution. Nous allons à Kinshasa pour retrouver Trésor Kazadi. Trésor.
Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, je suis Ali.
Bonsoir. Qu'est-ce que vous proposez?
Ok, je propose. Je suis très joyeux concernant cette émission d'aujourd'hui. C'est une émission pertinente qui m'a été touchée dans mon cœur. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que dans mon cas, j'ai vu que la seule église que je compte parmi d'autres églises, c'est une église catholique, parce que elle a joué un rôle exceptionnel avec lequel on a un changement dans notre pays et quoi est la paix. Alors, ça c'est un cas à part. J'étais pénétré dans l'autre camp. Je me dis ceci, je pense qu'aujourd'hui, il y a des
Je pense qu'il y a un problème avec Trésor. Nous avons Daniel Lassé qui se trouve également en RDC. Daniel? Oui, bonsoir.
Bonsoir, je vous écoute.
Votre proposition?
Je dis que les conducteurs religieux sont devenus des politiciens. Ils se mêlent à la politique. Au lieu de rester à leur tête du devoir. Donc, les vrais chrétiens, les vrais croyants, les vrais religieux doivent rester à politique. Hein, et surtout les ecclésiastiques, les conducteurs religieux doivent être à politique. Ce qui fait la confusion, c'est que, au lieu que ces gens-là, les conducteurs, les clergés, restent à leur côté de voir, c'est-à-dire à leur religion, ils se mettent à la politique, ils deviennent eux-mêmes les politiciens, ça veut dire que pourtant les choses ne marchent pas bien. Un vrai croyant, un vrai chrétien, un vrai Le religieux doit être apolitique. Vous voyez, il doit suivre les commandements divins, les commandements divins. Donc il doit vraiment être un religieux et ne pas céder à la politique. Parce que quand vous mêlez où la politique c'est pour César, la religion c'est pour Dieu. Donc vous voyez que ces choses ne se mélangent pas.
Merci Daniel pour votre contribution. Nous avons Aruna Bardet. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les États de la Zoafrique.
Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer ce mal qui mine le continent africain, dans plusieurs pays en tout cas?
Bon, je pense qu'aujourd'hui, ce thème a une importance capitale. Pour vraiment éradiquer ce fléau, il y a beaucoup de solutions, à savoir d'abord appliquer ce que les textes religieux ont dit, mais pas essayer d'être à la place des textes, c'est-à-dire voilà, d'interpréter la manière dont on veut, voilà, de, selon nos sentiments en quelque sorte. Je pense que les textes sont compréhensibles et c'est facile. Et c'est juste que c'est la manière dont les religieux et certains gens l'interprètent qui cause problème. Aujourd'hui, moi, quand je prends exemple, dans mon pays, le Sénégal, aujourd'hui, on ne distingue plus qui est chrétien, qui est musulman et qui est autre religion. Mais maintenant, ici, d'ailleurs, ce sont les hommes religions, c'est la religion qui est l'actrice, en quelque sorte, la régulatrice dans la société. S'il s'agit d'une question d'intérêt national, les hommes religions, que ça, les différentes religions se lèvent vraiment en participe, en quelque sorte, pour vraiment qu'il y ait la paix et qu'il y ait l'harmonie dans la société. Et je pense que c'est le rôle principal de la religion, en quelque sorte, c'est-à-dire purifier les cœurs, unifier les gens. Et c'est l'amour aussi entre voilà, les gens. Et je pense que s'il s'agissait de cela, il faudra vraiment davantage que les religieux, les prêcheurs, prennent ces arts de discours-là dans la société. Et je pense que c'est voilà, le rôle essentiel de la religion.
Merci, Aruna, pour votre contribution. Nous retournons ici aux États-Unis. Jean-Pierre, vous nous entendez?
Oui, si.
Voilà, vous avez entendu à nos auditeurs ce qu'ils disent, une mise au point.
Oui, juste quelques points partant de différentes réactions. La première chose concerne peut-être l'essence ou la nature même de la religion, ou plutôt action de religieuse, si on pourrait dire ainsi. Première, c'est que il est vrai que dans beaucoup de cas, par exemple, tous ces mouvements religieux et extrémistes et qu'on trouve en Afrique, il y en a beaucoup, vous les avez énumérés. Donc, il y a un aspect de la manipulation, il n'y a pas de doute, c'est-à-dire instrumentaliser la religion. Ça, c'est un fait. Et deuxième, il faudra quand même reconnaître qu'au-delà, ou plutôt en plus de la manipulation, il y a possibilité aussi de la violence à l'intérieur de chaque religion. Cela est très important aussi à adresser, parce que si une religion se ferme et nie sa propre violence, ça peut être très difficile de faire face à une violence dans une région ou dans un territoire quelconque. Donc je crois que oui, il y a manipulation de l'élément religieux. Deux, il y a aussi ambivalence du phénomène religieux. Ambivalence dans le sens où la religion, elle est porteuse de la paix, mais elle peut aussi avoir la violence en soi, c'est-à-dire surtout dans le cas de ne pas reconnaître l'altérité de l'autre, par exemple, à pouvoir s'exprimer. Troisième élément que j'aimerais aussi souligner, c'est l'élément identitaire. Quelqu'un, je crois, c'est de la Côte d'Ivoire, a souligné identité à travers la religion, musulman, chrétien, géographie, aussi le lieu, nord, sud, etc.
Elle est de pouvoir.
Oui, voilà. Ce qui est aussi vrai, c'est que les conflits religieux sont quelque part aussi des conflits identitaires, ou plutôt s'appuient sur l'élément identitaire. Il est des nôtres, il ne l'est pas, etc. Donc ça aussi, c'est un fait réel. Et enfin, je crois, les gens du Congo et d'ailleurs ont amené aussi l'élément politique, c'est-à-dire quelle est la place de la religion par rapport à la politique, est-ce qu'elle devrait s'engager. Donc je crois que quand il s'agit d'aborder la question des conflits où la religion est impliquée, c'est vrai, on peut parler que la religion doit être apolitique, mais au moment où un conflit à des dimensions multiples, c'est-à-dire on retrouve des éléments politiques, l'usage de la politique, on retrouve la religion, on retrouve les éléments sociaux, etc. Et dans ce cas-là, je crois que la religion ne peut pas être en retrait. Donc elle est invitée à participer, à des projets de paix. Donc ça, c'est nécessaire. Et dans le cas du Congo, par exemple, la religion, surtout l'Église catholique, elle est très présente, très très présente dans des actions sociales. Évidemment, des actions sociales qui, et aussi, pas seulement des actions sociales, mais aussi la justice, notion de justice. Et je crois, pour ceux qui croient en Dieu, justice, actions sociales vont en commun. Et cela peut être mal perçu par certains politiciens.
Gardez la ligne, Jean-Pierre. Nous avons d'autres auditeurs en ligne. Avant de prendre Paul Aimé et Lisa, il y a quelques commentaires de Hassan Omar. La connaissance approfondie et le dialogue sont clés contre l'extrémisme. Théadoum Osana, je pense que les imams et pasteurs ont un grand travail à faire dans le domaine de la conscientisation. La religion aujourd'hui a perdu sa vraie valeur. C'est une honte quand on tue au nom de la religion. La religion doit être un moyen de paix et non de violence ni de haine. Jean Sokola, il dit il faut laisser la politique aux politiciens et chacun et que chacun prend ses responsabilités pour éviter des confusions. Il est de la RDC. Vincent Seronou, la religion contribue à la paix qu'il instaure les différentes religions dans leur constitution étatique, comme dans mon pays. L'article 2, il cite l'article 2, aucune religion n'est mauvaise, ce sont les hommes qui change. Nous avons Paul Aimé en ligne. Paul, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Voilà. Ouais. Vous dites que quand une religion n'est pas divine, elle conduit toujours au désastre.
Oui, effectivement, c'est ça. Comme je le disais dans mon commentaire, quand la religion n'est pas divine, elle conduit toujours au désordre. C'est le cas de l'islam que nous voyons actuellement. Et le problème, c'est que normalement, l'islam doit avoir...
L'islam, c'est une religion de paix, hein?
Oui, effectivement, mais actuellement, si nous voyons ce qui se fait et ce qui se passe dans le monde entier, tous les attentats, les crimes sont commis par les islamistes.
Des individus.
Et au nom... Allô?
Oui, je vous écoute, par des individus.
Vraiment, vraiment. Mais qui se disent... Donc, ce que moi je vois est que il faudrait une école où tous les imams doivent être formés, avoir un diplôme, comme dans la religion catholique et dans les autres cultes, où les pasteurs sont diplômés, ils ont... une attestation théologique. Là, dans ce cas-là, il faudrait leur inculquer les comportements, les bonnes manières et le vivre ensemble, la cohésion sociale. Et comme ça, à leur tour, ils vont le prédire et leur enseigner aux adeptes. Puisque, tout dernièrement, je suivais un imam qui disait à ses fidèles au cours d'une prêche que le chemin, c'est-à-dire le djihad, est la porte pour aller au ciel. Comme l'imam peut dire de tels propos, peut tenir de tels propos. Et ceci peut conduire aux gens à aller commettre des attentats pour avoir accès au paradis. Donc, au point de vue général, il faudrait que on ait de bons responsables afin que ceux-ci et enseigne les bonnes manières aux fidèles pour qu'il y ait une diminution de choses.
Merci.
Des crimes dans le monde.
Merci beaucoup pour votre contribution, Paul. Thomas Sankara au Sénégal, il dit « Je ne dirais pas que mon pays, le Sénégal, est un modèle en matière de religion, mais elle joue un rôle incontournable dans la paix sociale, le vivre ensemble et dans la sphère politique. » Asmaïlou, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes à Lomé.
Oui.
Voilà, vous dites que le peuple africain est utilisé et manipulé au nom de des religions. Je vous écoute.
Oui, oui, pourquoi je l'ai dit? D'abord, il y a le mal interprétation de nos chefs religieux. Et suite à ça aussi, on va voir que ceux qui ont mal reçu le mal interprétation aussi font agir d'une autre manière au nom de la religion et surtout de l'islam.
Asmaïlou?
Allô? Oui, oui, allô.
Oui, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, concrètement, en 30 secondes?
Allô?
Oui, Asmaïlou?
Allô?
Je pense qu'il y a un problème de communication avec Asmaïlou. Bonne soirée à Lomé. Merci pour votre contribution. Il y a Inzaghi de Lille qui dit en effet, lorsqu'un président est chrétien ou musulman, il ne tarde pas très souvent à favoriser sa communauté au détriment de l'autre qui se sentent frustrés. Ils utilisent la religion sur fond de campagne politique. Tout cela ne sert qu'à diviser et à attiser la haine et la violence au sein des populations. Moussaou, les religions au Congo Kinshasa ont joué le rôle très important dans la lutte contre le régime dictatorial, en particulier l'église catholique. Kanyoumé Diara au Mali, il dit « Je suis très très touché par cette situation dans mon pays, le Mali, Kala aide l'Afrique pour mettre fin à ce fléau. » C'est Diara Kanyoumé qui se trouve dans son village natal à Soninkéni. Tegekene Omer, il dit « La religion, c'est l'opium du peuple », disait Karl Marx, et l'Afrique tout entier a vraiment consommé cette drogue au point d'être tous des abrutis. Il parle de ces radicaux, et pour remédier à ce fléau de crise de radicalisme, il faut commencer par devenir un Africain authentique. Inzaghi, bonsoir. Inzaghi, je pense qu'il y a un problème de téléphone. Nous revenons à Jean-Pierre. Jean-Pierre, avant de clore pour nous parler justement de ce qu'il faut faire, quels sont les résultats à l'issue de votre étude? Quels sont les résultats ou les propositions de solutions?
Oui, je voudrais d'abord revenir très rapidement sur ce qui a été dit en épinglant, me semble-t-il, l'islam comme religion de violence. Vous avez corrigé, vous dites mais l'islam c'est religion de la paix. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements extrémistes qui se réclament de l'islam, mais ce serait dangereux de penser qu'il n'y a qu'une religion peut-être qui peut générer la violence. C'est toutes les religions. Par exemple, le cas du christianisme, nous connaissons l'histoire des croisades, n'est-ce pas? Et même aujourd'hui en Afrique, par exemple en Ouganda, il y a l'armée de résistance du Seigneur, donc c'est un mouvement d'obédience chrétienne. Vous avez aussi en République centrafricaine, à Antibalaka, ce sont aussi des chrétiens. Bon, et on a aussi d'autres religions comme le bouddhisme, par exemple, contre ce qui s'est passé à Myanmar, est considéré même comme un génocide, et donc là c'est commis par les bouddhistes, ou ceux qui se réclament d'être bouddhistes.
Et qu'est-ce que vous recommandez comme proposition?
Et donc la possibilité de la violence existe dans toutes les religions. Ça, c'est un fait. Alors, ce qu'on recommande comme solution, comme vous regardez par exemple, tous les conflits qui sont en Afrique sont liés à des conflits politiques ou identitaires. Et donc, c'est au-delà, c'est vraiment au-delà de la seule réalité du domaine de la croyance et du culte. Et dans ce cas-là, donc, ce qu'il faut, c'est travailler avec plusieurs, d'abord les chefs religieux, c'est très très important, donc les chefs religieux, les différents responsables des communautés, les chefs politiques, l'armée, etc., doivent travailler en synergie pour faire face à ces violences, ce genre d'extrémisme religieux qu'on retrouve.
Merci Jean-Pierre. Malheureusement, le temps imparti à cette émission vient de prendre fin. On parlait de l'incursion de la religion et de l'extrémisme religieux dans la guerre civile à l'Afrique. Merci Eric Manilakiza. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.